Pendant plusieurs années, dans ma vie d'infirmière m'a permis de partir à la rencontre de professionnels passionnés, de découvrir des métiers, des parcours et des façons de soigner. Or, le soin évolue, les patients changent, les attentes de la société aussi. Pourtant, une question reste la même. Comment les grands défis de notre système de santé transforment-ils notre façon d'accompagner les patients ? Cette nouvelle saison propose de prendre un peu de recul sur nos pratiques. Chaque mois, je recevrai un professionnel pour explorer un sujet qui questionne notre manière de soigner, à travers son expérience, son expertise. Et parce que le soin se pense aussi à travers ceux qui le vivent, des patients et des professionnels du soin viendront ponctuellement apporter leur propre expérience. Bienvenue dans la nouvelle saison de « Dans ma vie d'infirmière ». Quand on parle des soins dans le système de santé, on pense spontanément aux droits des patients. Être informé, consentir, refuser un soin, accéder à son dossier. Mais qu'en est-il de ceux qui soignent ? Quels sont les droits d'un infirmier face à une situation qu'il estime dangereuse ? Peut-il refuser un acte ? Que peut-il faire lorsqu'il estime qu'une situation met un patient en danger ? Que pense-t-il lorsqu'il est confronté à des violences ? Et jusqu'où va sa responsabilité lorsqu'il exécute une décision médicale ? Entre droits, devoirs, responsabilités et protection, la frontière n'est pas toujours évidente. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre une chose très simple. Qu'est-ce qu'un infirmier a réellement le droit de faire et de ne pas faire ? Pour en parler, j'accueille Grégory Combe, juriste spécialisé en droit de la santé. Bonne écoute. Bonjour Grégory et merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler ici sur le podcast. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots ?
Avec joie et merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Grégory Combe, je suis juriste de formation. J'ai occupé plusieurs postes dans ma carrière, des postes hospitaliers. J'étais responsable des affaires juridiques d'un hôpital, je travaillais en fédération hospitalière. J'ai aussi été le directeur adjoint de l'Ordre national des infirmiers, où mes missions étaient diverses. Hein. J'avais autant les relations publiques, l'aspect juridique, les liens, et on pourra en parler, avec la déontologie et la chambre disciplinaire, et plein d'autres missions d'organisation territoriale, évidemment. J'ai aussi beaucoup travaillé, et je travaille encore beaucoup avec des structures soit infirmières ou de la santé, où je les aide et je les accompagne. Là, maintenant, d'un point de vue plus stratégique et politique, mais toujours avec ma connaissance juridique à côté, évidemment. Voilà un petit peu pour la présentation et le petit à côté. Je suis dans mon temps libre, critique ciné-série pour la Minute Ciné. Voilà, j'adore le cinéma, j'adore les séries télé et j'embête tout le monde avec mes critiques sur Plateau. Voilà.
Très bien. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, quand on parle de droit des soignants, de quoi on parle exactement ?
Alors, effectivement, souvent, le reproche qui peut être fait par les soignants, c'est de dire « droit des patients, on en parle, mais les droits des soignants, c'en est où ?» Voilà, ça c'est la grande question qui peut se poser. Pourquoi déjà il y a une grande loi des patients et pourquoi on n'arrive pas à trouver une grande loi des soignants, entre guillemets ? Mais on va voir qu'elle s'est répartie un petit peu partout. La loi du droit des patients, elle est arrivée parce qu'on estimait que quand quelqu'un rentrait dans un établissement, je simplifie évidemment, je rassure, je ne vais pas faire un cours de droit ennuyeux. On estimait en fait que les patients, quand ils rentrent en établissement, quand ils sont dans une relation de soins avec un soignant, ils sont dans une posture qu'il faut protéger de fragilité. Ils sont face à un sachant, qui est le soignant, qui a des compétences techniques, qui a des compétences relationnel et qui en plus connaît son métier, et eux, ils arrivent à un moment où ils peuvent être malades et dans une situation où psychologiquement ou physiquement, ils sont potentiellement diminués. Donc l'objectif d'une loi du droit des patients, c'était de remettre de l'équilibre dans cette relation et de rappeler qu'un patient qui rentre en établissement a des droits. Ça peut paraître tout bête, mais quand c'est sorti en 2002, c'était important et on a eu un complément qui a été la loi du droit des patients en fin de vie, dite Leonetti, qui a ensuite été complétée et qui aujourd'hui, c'est une actualité un peu brûlante, qui est la loi sur l'aide à mourir, où on a, alors le texte ne le qualifie pas comme ça, mais où on a l'euthanasie et le suicide assisté, qui est encore un complément de ces droits. Maintenant, est-ce que les soignants ont des droits ? Ça, c'est la grande question. Oui, ils en ont. Ils en ont quelques-uns. Les droits qu'ont tous les citoyens, c'est-à-dire que devenir un soignant n'enlève pas les droits des citoyens classiques, et ils vont avoir des droits spécifiques. Mais il va falloir aller les chercher dans plein de lois. C'est ça qui va être un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est sortie sur la lutte contre la violence faite aux soignants, il y a peu, qui peut faire partie de ce corpus juridique. Il y a évidemment tous les droits en tant que salariés, pour les soignants qui sont salariés, et il y a encore plein d'autres droits, comme par exemple la clause de conscience qu'on a pour l'IVG, qu'on a maintenant pour l'euthanasie. Donc en fait, c'est ça la difficulté pour aller trouver les droits des soignants, c'est justement aller les chercher un petit peu partout. Et il y a des organismes qui sont là pour les défendre, les réguler et les défendre. L'ordre, par exemple, les ordres professionnels sont là à la fois pour défendre le soignant, promouvoir la profession, mais aussi le sanctionner le cas échéant si lui-même ne respecte pas. On pourra y revenir sans aucun problème. Donc le droit des soignants, c'est le droit de tout citoyen, complété par d'autres droits qui les protègent, comme celui sur la violence ou comme les ordres. Et j'ai même envie d'aller plus loin, parce que souvent les soignants disent « mais oh là là, la déontologie, c'est des règles en plus », c'est une protection. Parce qu'en fait, ça ramène sur quelles sont les obligations du soignant, mais quelles sont aussi les valeurs qu'on a. Je vais prendre un exemple très simple. Le fait qu'on ne doit pas pratiquer son art, son soin, comme un commerce. Alors on va dire, c'est fait pour pas soutirer de l'argent aux patients. Oui, mais c'est aussi fait pour protéger le soignant. C'est-à-dire que si demain, une structure de soins, un établissement, disait, vous n'êtes pas assez rentable, vous, soignant, et vous devez, je vais coller à votre contrat, une clause de rentabilité. Vous pourriez utiliser votre code de déontologie et dire, non, c'est illégal, c'est impossible. Je ne peux pas pratiquer comme un commerce, ça me protège. Ce que vous me demandez là, c'est de le pratiquer comme un commerce, donc vous n'avez pas le droit. C'est illégal. Et ça, c'est une protection du soignant. Et on pourra y revenir. Le code de déontologie, infirmier notamment, est plein de protections. Et d'ailleurs, c'est, je profite de ce podcast, il y a les élections de l'ordre qui arrivent, qui vont être au niveau départemental, régional, puis national. C'est important que les infirmières et les infirmiers investissent ces élections ordinales, parce que c'est la vie de votre profession. Petit aparté, le fait d'avoir un ordre pour les infirmiers, mais pour les autres professions, ça montre que la profession infirmière est assez mature pour s'auto-réguler. C'est très important d'avoir un ordre. Souvent, on va me dire, oui, mais ça nous prend des cotises, voilà. Je l'ai entendu et je le conçois. Et l'ordre, tous les ordres peuvent toujours s'améliorer. Mais l'important, c'est que quand on juge, quand le législateur, donc le représentant du peuple, donne la possibilité d'avoir un ordre à une profession, c'est de la juger assez mature pour s'auto-réguler, c'est-à-dire s'auto-juger, mais aussi travailler sur sa façon de vivre son métier. Et donc, les élus qui arrivent et qui se positionnent sur le code de déontologie, qui sont issus des infirmiers, c'est de dire qu'au final, c'est les infirmiers qui se protègent eux-mêmes. D'où l'importance de participer à la vie ordinale. C'est, je pense, le cœur même de ces professions. Ce n'est pas que de la cotisation. Et petit point, pourquoi une cotisation ordinale ? La juger élevée, pas élevée, tout ça, c'est parce qu'en fait, un ordre ne doit pas avoir de finances extérieures. Il doit être financé par la profession qu'elle régule pour garder son indépendance. Imaginons si demain, c'est déjà arrivé, si demain, par exemple, on avait une position de l'ordre qui allait contre le gouvernement, le fait que l'ordre ait ses cotisations qui rentrent de façon indépendante lui permettent d'aller là. Exemple très simple, on a eu le premier code de déontologie, le gouvernement ne le sortait pas. Donc, c'était quand même une régulation, un encadrement de la profession. L'ordre infirmier a fait un recours contre l'État, l'a fait condamner et a fait sortir le code de déonto. Demain, ça pourrait être sur plein d'autres points. Par exemple, aujourd'hui, on attend beaucoup de la sortie de textes sur les ratios. Si les textes n'étaient pas conformes, l'ordre pourrait attaquer. Si les textes qui étaient sortis de la loi infirmière n'étaient pas conformes à la loi infirmière, des décrets et arrêtés, l'ordre aurait pu attaquer. Et c'est cette indépendance-là qui donne une grande puissance. Voilà, j'ai un peu tergiversé là-dessus, mais ça montre d'où vient aussi le droit des soignants.
Et du coup, tu as un petit peu déjà répondu aussi, mais pourquoi on parle beaucoup moins de cet ordre des professionnels que de celui des patients ?
Parce qu'en fait, on part de très 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 loin pour les patients, vraiment. Et encore aujourd'hui, je vais être clair, encore aujourd'hui, le droit des patients ne s'applique pas comme il devrait être appliqué. C'est-à-dire qu'on a encore des patients qui ne savent pas qu'ils peuvent donner leur consentement à tout moment, à tout acte. Il arrive encore des fois, prenons l'exemple des personnes âgées dépendantes, où elles ont encore leur discernement et on va violer leur secret en parlant de leur prise en charge à leur famille sans leur en parler à eux. Donc on voit que le chemin est long. Ça ne veut pas dire que le chemin sur le droit des soignants est arrivé au bout. Moi, j'aimerais, ça c'est un peu ma demande, hein, c'est bientôt les présidentielles, je peux faire des petites demandes, c'est le moment où il faut demander. Moi, j'aimerais qu'il y ait une grande loi sur justement le droit des soignants et qui donne tous les points impératifs et obligations de l'appliquer. Je vais te donner un exemple très simple. Dans la loi infirmière, il y a un passage qui est très bien. Il y a beaucoup de passages qui sont bien dans la loi infirmière, mais il y a un passage qui est très bien et qui malheureusement aujourd'hui n'est pas concret pour les soignants. Il y a un passage dans l'article 1 qui dit que quand cette loi sort, doit être obligatoirement revalorisé les salaires et les actes des soignants au regard de ces nouveaux actes, et la pénibilité doit être prise en compte. Donc, la pénibilité est reconnue pour les infirmiers. C'est un métier qui peut être pénible. Dans la convention signée par les infirmiers libéraux, donc sur la partie libérale, c'est juste une petite phrase dans la convention, rien n'est signé, c'est balayé d'un revers de main. C'est totalement illégal. Que les syndicats aient signé ou pas signé, c'est pas le sujet. C'est illégal. Le deuxième point, c'est que pour les salariés, on n'a toujours rien vu. Et je m'étonne que les grandes centrales syndicales ne se soient pas emparées de ça. Je pense qu'ils n'ont pas lu la loi. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, comment on fait en sorte que tout ça se mette en place? Et le dernier point, politique. On va faire un peu de politique. C'est aussi arriver à faire comprendre aux gens que le métier de soignant n'est pas un métier sacrificiel. Voilà. Longtemps, on dit, oh là là, ils sont dévoués. C'est la petite cornette pour les infirmières. Non, c'est un métier. C'est un métier pas comme les autres. C'est un métier où on est confronté à la mortalité tous les jours. C'est un métier où on est confronté à la souffrance. Donc c'est un métier dur et pénible. Oui, humainement, mentalement, physiquement, c'est dur. Oui, je vais pas dire le mot vocation, mais il faut avoir l'envie d'y aller. C'est pas un métier qu'on fait comme un autre. C'est pas ce qu'on appelle les bullshit jobs. Pardonne-moi de faire un anglicisme, mais c'est un métier qui a du sens, mais qui est très dur. Moi, je dis souvent aux soignants que le point le plus important, c'est de regarder votre date de péremption en tant que soignant. C'est-à-dire, c'est à un moment, si le métier vous semble trop difficile, ne pas avoir honte de le dire et comment se reconvertir. Moi, quand j'étais à l'hôpital, j'étais le responsable des affaires juridiques, mais aussi du droit des usagers. Donc, j'avais le volet où je prenais en charge les patients qui étaient mécontents de leur prise en charge. Donc, c'était beaucoup de souffrance. Au bout de 6 ans, c'était très lourd. J'ai changé de métier. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'y retournerai pas. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de changer de métier. Donc, ce n'est pas une honte. Donc, effectivement, déjà faire rentrer dans la tête de tout le monde que c'est un métier qui doit avoir les protections nécessaires au regard de sa spécificité. Et donc, c'est ça, moi, que j'attends. C'est une vraie loi et qui va loin et qui ose, de façon frontale, prendre tout ça. Un gros défaut de la loi sur les violences. On va y revenir, sur les refus de soins. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'au moment où il y a le premier acte de violence sur un soignant, le soignant puisse se désengager complètement. On est toujours dans une optique où il doit lui trouver une solution. Et je dis bien attention, je dis acte de violence d'un patient qui n'est pas en perte de lucidité. Qu'est-ce qu'il fait? On est encore là-dedans. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse acter clairement les choses. Malheureusement, on n'est pas allé au bout, parce que c'est tabou. Parce qu'aujourd'hui, le soignant, il doit se sacrifier. Ça doit être terminé. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'enjeu numéro un des prochaines élections pour les soignants, qui arrivera avec un programme et qui dit... Les soignants ont des droits et on va expliquer.
Tu touches un sujet hyper important pour moi. J'ai eu une situation il y a des années sur un patient qui refusait les soins. Et du coup, est-ce que nous, en tant que professionnels, on a le droit de refuser de pratiquer un soin sur un patient qui a refusé les soins mais qui était très violent et...
Alors, on est sur... En fait, tu as deux questions dans ta question. la première, ça va être le refus de soins du patient. C'est-à-dire que si le patient est conscient, n'a pas de trouble cognitif et souhaite que les soins s'arrêtent, c'est son droit le plus absolu. Alors, il faut lui expliquer les risques, clairement. Il faut lui expliquer les risques. Il faut dire, voilà ce que vous risquez, voilà ce qui va se passer. Il faut bien tracer. Alors là, s'il y a une seule chose que les gens doivent retenir de ce podcast, c'est l'écrit est votre meilleur ami. L'écrit. Tout doit être tracé. Je sais qu'à chaque fois, moi, quand je dis ça aux soignants, ils me disent, oh, il y en a marre, on passe notre temps à écrire. Le jour d'un contentieux, c'est l'écrit qui sera votre meilleure preuve. Donc, il y a ce premier point, le refus qui vient de la part du patient. Donc, on trace tout. S'il n'a pas de problème cognitif, aucun souci, c'est son choix le plus absolu. Si un patient souhaite arrêter les traitements, et c'est ça qui est le plus dur, et qu'il est majeur, et qu'il aurait pu être sauvé par ces traitements, mais qu'il veut les arrêter, il faut tout lui expliquer. Il faut bien voir s'il n'a pas de trouble cognitif. Si c'est le cas, c'est son droit. Après, il y a la continuité des soins et le refus de soins qui vient du soignant. Donc ça, c'est l'article R4312-12. Alors, je ne ferai pas beaucoup de juristes, mais là, je le fais un peu parce que l'article est important. Il est dans le code de déonto et il est très clair, cet article. Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier est tenu d'en assurer la continuité. Or, le cas d'urgence est celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité. Un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. Si l'infirmier se trouve dans l'obligation d'interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l'orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un devoir de transmission. Premier point, tu as un danger mortel. La personne est en alcool plus, je prends un exemple comme ça, il a un couteau et il essaie de taper les gens avec son couteau. Tu n'as pas l'obligation d'aller te sacrifier. Voilà. Par contre, tu passes l'alerte. Bon, tu passes l'alerte à la police et tu passes l'alerte aussi sur les soins. Attention à tes soins. Tu es en conflit ouvert avec un patient qui n'a plus confiance en toi. qui dit moi j'ai plus confiance, qui t'insulte, mais qui veut quand même que tu viennes faire les soins. Tu as totalement le droit de dire, moi je sens que la relation de soins, elle n'est plus là, je ne vais pas pouvoir te soigner au mieux, donc je vous oriente vers quelqu'un. Là aussi, toujours ne pas hésiter à prendre et à solliciter l'ordre, si besoin, et conseil sur l'ordre. Il y a autre point, alors ça on va rendre un petit peu à César ce qui est à César. Régulièrement, quand on parle de l'autonomie infirmière, il y a un petit peu les médecins généralistes qui ne sont pas tous, les syndicats qui ne sont pas contents. Non, pas d'accès direct aux infirmiers, ça passe par nous, le médecin, si demain ça ne passe pas par le médecin. Mais très bien, qu'ils assument. Qu'ils assument le grand médecin traitant, porte d'entrée, qui oriente. Alors il y en a plein qui font très bien leur travail. Je parle surtout des syndicats qui jouent un peu là-dessus, sur des syndicats qui souvent sont très vieillissants, j'y vais franchement, et qui ne reflètent pas ce que veulent la jeune génération. Mais bon, donc, dans ce cas-là, il faut transmettre aussi au médecin traitant. C'est le médecin traitant qui est censé coordonner les soins, c'est dans ses missions, il est payé pour ça. Donc c'est à lui aussi de trouver des solutions. Et à un moment, si le médecin traitant veut rester le médecin traitant chef du parcours du patient, c'est pas que dans les bons cas. Voilà, c'est aussi dans les mauvais cas qu'il doit aider. Voilà, parce que moi j'entends souvent parler le binôme infirmier-médecin, c'est le grand truc qu'on me sort, mais on me sort le binôme infirmier-médecin que quand tout va bien. Quand tout va mal, le binôme, on en entend moins parler. Bon, donc voilà, c'est aussi quand ça va mal. L'équipe de soins, moi je préfère dire, c'est l'ensemble de l'équipe de soins autour du patient. Personne n'a priorité sur le patient, c'est le patient qui priorité. Donc voilà, sur le refus de soins, il y a deux cas. Le refus de soins par le patient, information sur les risques, et le refus de soins par le soignant, encadré par la déontologie et l'article que j'ai cité.
Ok, mais tu fais bien de parler du coup de ce binôme infirmier-médecin. Quand par exemple tu as un professionnel, donc un infirmier qui reçoit une consigne ou une prescription, comment s'arrête sa responsabilité, c'est-à-dire comment la responsabilité entre le médecin et celle de l'infirmier, elle s'articule, parce qu'on se pose toujours la question de, par exemple, une erreur médicale sur, par exemple, une posologie d'un traitement, mais c'est toi, l'infirmier, qui administre. Comment s'articule tout ça?
Alors, d'abord, je vais citer une vieille théorie du droit, mais qui s'applique, et après, je vais expliquer concrètement ce que ça fait. C'est ce qu'on appelle la théorie des baïonnettes intelligentes. Voilà, j'aime beaucoup. En droit public, on enseigne ça, la théorie des baïonnettes intelligentes. Alors, il y a d'autres. Maintenant, ça a été modernisé, mais j'aime bien ce terme. Ça veut dire que, déjà, toute personne qui reçoit un ordre garde sa conscience. Ce n'est pas parce que tu as reçu un ordre, s'il est manifestement illégal, si tu l'appliques, tu es responsable. Parce que tu es censé pouvoir discerner ce qui est légal et pas légal. Je rappelle que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est le meilleur article de tous les temps. En admettant ça, on est censé tous connaître les milliers de pages de tous les codes français. Voilà. Bon, on sait que ce n'est pas la réalité, parce que même les juristes ne les connaissent pas tous. Mais voilà. Donc en fait, on va appeler, et c'est là où il y a tout l'intérêt aussi de la loi infirmière. C'était déjà le cas avant quand même, et ça l'a renforcé avec la loi infirmière. Dans la loi infirmière, on reconnaît le diagnostic infirmier, la consultation infirmière, et en fait, je dirais, le fait que techniquement, un infirmier analyse la situation. Et si tu vois qu'il y a une prescription qui est manifestement illégale, qu'on te prescrit un produit qui n'est pas légal, ou qu'on te prescrit un produit qui, dans cette situation-là, n'est pas légal. Exemple, hors de tout cadre de fin de vie qui mélange Novel et de morphine. Voilà. Et là, tu vas pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense, de par mon analyse clinique, que ça va entraîner un dommage au patient. Donc, je ne l'applique pas. Ce n'est pas parce que le médecin a fait une prescription que tu es dans l'obligation de l'appliquer. Par contre, il faut que tu le justifies. Il faut que tu le justifies. Pourquoi ? Il ne faut pas que ça entraîne un dommage de retard. C'est-à-dire que, par exemple, si tu arrives et que tu ne veux pas appliquer quelque chose qui était justifié et que le patient a des dommages, ça sera ta responsabilité. Par contre, si tu sens que c'est manifestement illégal, que ce n'est pas dans tes compétences, que ce n'est pas dans le cadre du droit, tu as le droit de refuser. Un autre point important qu'on aborde peu et qui est important à rappeler, si tu ne t'en sens pas la capacité technique, c'est pas parce que c'est dans tes missions, c'est pas parce que c'est dans les missions infirmières, que si à un moment il y a un geste où tu te dis je le sens pas, le patient est agité, tu n'as pas pratiqué ce geste depuis longtemps, tu as le droit de le dire. Tu as le droit de dire ça, je ne le sens pas, sur ce cas-là, je n'arriverai pas à le faire. Il vaut mieux, après il faut trouver quelqu'un pour le faire, mais il vaut mieux à un moment donné, clairement, ne pas faire un geste sur lequel tu ne te sens pas de le faire parce que techniquement tu penses ne pas y arriver. C'est pas grave. Après il faut se former pour se remettre à niveau, mais il ne faut jamais aller faire quelque chose où tu vas te mettre en difficulté. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc voilà, donc oui, normalement, prescription on applique, mais si c'est illégal, si ça va entraîner des dommages, l'infirmière ou l'infirmier a une capacité de réflexion qui lui permet de dire là, ça ne va pas. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Mais toujours, traçabilité, expliquer pourquoi, en établissement, faire remonter à sa hiérarchie de façon tracée.
Et quand un soignant, donc un infirmier, toujours commet une erreur, qu'est-ce que ça signifie juridiquement pour lui ?
Alors, il y a plein de types d'erreurs différentes. Déjà, il y a, parce qu'en fait, tu as plein de niveaux de responsabilité. Tu as, par exemple, ce qu'on appelle, alors je fais très rapide et je simplifie, hein, la responsabilité civile ou administrative, qui est pour indemniser les victimes. Par exemple, quand un infirmier est salarié, l'établissement, l'employeur prend généralement en charge de cette dimension dans le cadre de son service. Le patient estime qu'il a eu un dommage, il demande une réparation, c'est de la responsabilité civile. La responsabilité pénale qui est personnelle, celle suppose une infraction. Tu as commis une infraction au code, une imprudence, une négligence ou un manquement, mais ayant causé une blessure ou un décès, donc quelque chose de très grave. Toute erreur ne devient pas une infraction pénale, ça il faut le rappeler. L'erreur, en fait, dans la vie est acceptée, même si elle entraîne des dommages. Ça ne va pas te faire aller en prison obligatoirement. Par contre, si tu fais une erreur manifeste, voire détachable du service, là, on va aller sur du pénal. Par exemple, tu sors de tes compétences. Le classique, je vais en profiter, je vais être un peu taquin, le médecin te crie à l'autre bout du service une prescription, mais il n'a rien écrit. Tu donnes le médicament, le patient meurt, tu as donné un médicament sans prescription écrite. Tu as fait une faute, potentiellement perte de diplôme, prison. Parce que c'est de la pratique illégale de la médecine, notamment, et pas que. Alors effectivement, tu vas me dire, oui, mais le médecin, on se connaît depuis des années. Alors tu vas me dire, je tape le temps sur les médecins. Je leur dis la même chose aux médecins. Leur responsabilité, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils tracent tout. Et ça les énerve encore plus, pour être clair. Mais ça, si, quand je te donne des cas comme ça, c'est des cas que j'ai eus dans ma carrière. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un procès. La personne qui t'a crié à l'autre bout du couloir, sa prescription orale, elle dit j'ai jamais dit ça, c'est l'infirmière, elle n'a rien compris. Comment tu prouves ? Donc voilà. Donc ça, c'est dans les dangers. L'autre point, c'est la responsabilité disciplinaire. Donc c'est par l'employeur ou par l'ordre. Ça ne nécessite pas un dommage, mais tu as fait un manquement, par exemple en établissement à ton règlement intérieur ou à l'ordre, à la déontologie. Et après, tu vas avoir certaines réponses. Elle ou autre dans le cas de crise. Donc, tu vois, c'est vraiment des choses différentes. Tu fais une erreur, mais qui n'est pas manifestement illégale, qui a entraîné un dommage sur un patient, tu ne vas pas, toi, avoir une poursuite pénale. Après, l'établissement peut faire une poursuite disciplinaire, mais ça va être l'établissement qui va indemniser. Par contre, tu fais quelque chose d'illégal, donner un médicament sans prescription, écrite, signée, datée, tu arrives en alcool plus, et tu fais n'importe quoi. Là, c'est ta pénale qui va être engagée. C'est vraiment des points importants, et je le dis aussi. L'autre point, là encore une fois, dans tous les cas, passer, faire des fiches d'événements indésirables quand il y en a, pour montrer, parce que lors d'un procès, il n'y a plus d'amis. Tu vas me dire, tiens, je l'ai invité, le juriste, il va déprimer tout le monde. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de collègues, tout le monde a peur, et c'est logique. Pour sa propre carrière et pour sa propre vie, on a tous des crédits, des enfants, des chats, des chiens, tout ce que tu veux. Et on se dit tous, je priorise ma vie. C'est humain, c'est logique, c'est normal. Donc dans ce genre de cas, et moi je l'ai eu, combien de fois j'ai eu des soignants qui sont venus me voir en me disant « Mais vous inquiétez pas, mes collègues vont témoigner pour moi. » 90% des cas, ça n'arrive pas. Par contre, demander à saisir les fiches d'événements indésirables, se rendre compte que c'est un problème récurrent que l'administration n'a pas résolu, ça peut sauver une carrière. Donc écrire, tracer tout le temps. Et je donne le même conseil aux médecins et je donne le même conseil aux directions. Toujours tracer, toujours écrire. Alors pas tout n'importe quoi, c'est des faits objectifs étant la grille des événements indésirables. Donc voilà, donc l'erreur, elle peut arriver. Et j'ai même envie de dire, l'erreur, elle arrivera. Personne dans une carrière n'est à l'abri d'une erreur. On en a tous fait, j'en ai fait, les soignants en feront. Parfois on a de la chance, c'est pas grave. Parfois on n'a pas de chance, c'est grave. Le tout, c'est de se reconstruire derrière. Mais ça arrivera. Et aujourd'hui, les soignants auront de plus en plus de chances d'être confrontés à la justice, qu'elle soit ordinale, pénale ou civile. Donc, une erreur, ça arrive. Et c'est pour ça que ce métier est pénible et qu'il doit être reconnu comme pénible. Moi, juriste aujourd'hui, mon erreur, la pire, j'oublie une pièce jointe dans mon mail. Ouf, c'est dur. Toi, demain, ton erreur, c'est peut-être de blesser un patient, même involontairement, parce que tu auras été fatigué, parce que tu auras été crevé, parce que tu auras eu la tête ailleurs. Ça aussi, c'est un point important dans son autodiagnostic. Est-ce que physiquement, on qu'on est toujours complètement au top. Non. Donc, comment on s'autodiagnostique en disant là, attention, je risque d'aller vers l'erreur. Mais signaler, est-ce que par exemple, et ça aussi, ça peut être un point juridique, de façon répétée dans mon service, il y a de l'absentéisme, et donc on est en sous-effectif. Il faut le tracer. Parce que cette fatigue, elle peut entraîner l'erreur. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une faute là de la direction? Alors les directeurs vont me dire oui, mais j'arrive pas à recruter. Oui, mais à eux aussi de faire suivre. Et dans les fautes derrière des recrutements ou autres. Voilà. Tous ces points-là sont importants. Combien de fois aussi on m'a dit, je suis en EHPAD, j'ai donné le médicament sans prescription parce que je n'arrivais pas à joindre deux médecins. C'est très dur ce que je vais dire. Il faut garder et appliquer la loi. C'est souvent l'humanisme de l'infirmier qui l'entraîne à faire des fautes et qui l'entraîne à avoir un contentieux. Quand on va dans le monde du contentieux, c'est un monde froid et sans âme. Alors, pareil, les avocats, les juges vont dire « Oh là là, c'est un salaud !» Non, nous les juges, on est gentils, on apprécie au cas par cas. La réalité, c'est qu'ils sont comme les infirmiers, les juges, ils sont débordés, ils sont épuisés. Et ils n'ont pas le temps de rentrer dans le détail de tous les dossiers. Et encore une fois, quand on est dans le maelstrom d'un contentieux et d'un procès, c'est dur. Donc voilà, il faut vraiment faire cette attention-là. Et toujours se poser une question très importante. Est-ce que si je continue à exercer dans cet établissement, est-ce que je ne mets pas en danger mon diplôme? Est-ce que les conditions font que, à terme, je risque de me mettre en danger et mettre en danger le diplôme? Perdre un emploi, quitter un emploi, c'est toujours embêtant, comme je dis. On a besoin d'argent pour vivre. Et c'est jamais pire que s'enfoncer dans une erreur qui vous marquera toute votre vie, qui vous fera perdre votre diplôme. Donc ça, il faut toujours y penser. Le burn-out chez les soignants, c'est le sujet number one. Et aujourd'hui, depuis 40 ans, personne n'a été à la hauteur au niveau des gouvernements sur ce sujet. Personne et aucune loi. Alors, je mets bien un direct, comme ça, on met bien. On va se faire des copains après ce podcast, toujours bon.
On a parlé du droit des soignants en général. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se focalise un peu plus sur la loi de l'exercice infirmier, parce que tu y as participé. Du coup, qu'est-ce qui a rendu cette évolution nécessaire et qui sont les acteurs qui sont intervenus du coup dans ce type de processus?
Alors, comme toujours, je sors cette petite phrase de juriste. Tout ce que je ne dis n'engage que mon humble personne. Cette loi, ça fait longtemps que des gens se battent pour qu'elle arrive. Et moi, je tiens à les saluer, parce que ça soit des syndicats, que ça soit l'ordre, il y a des gens qui se battent depuis longtemps. Il y a le Collège infirmier français, qui se bat depuis très longtemps pour qu'il y ait cette loi. Il y a le SNPI, qui se bat aussi pour qu'il y ait cette loi. Il y a des acteurs plus récents, des actrices plus récentes, qui sont battus aussi pour cette loi. Il y a l'association soignants humains, il y a UNIPA, le syndicat des IPA, il y a le collectif des infirmières en colère, qui s'est battu aussi pour cette loi, en cours justement de la loi qui est arrivée. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un combat infirmier pour l'accès aux soins des patients. Déjà, je trouve que ça montre la force de cette profession. C'est que quand elle se bat, elle se mobilise. Alors, c'est ça aussi sa faiblesse. Elle s'oublie, elle pense d'abord aux patients. Qu'est-ce qui a nécessité cette loi et qu'est-ce qui l'a bloqué? Ça fait des années qu'en fait, la profession avait déjà évolué depuis longtemps. L'ordre l'avait constaté. Et il faut saluer tout le travail qui a été fait à l'ordre. Encore une fois, souvent, quand on me dit à quoi sert l'ordre, sans l'ordre, il n'y aurait jamais eu de loi infirmière. Il faut être clair. Donc, on savait qu'il fallait rattraper le droit. Le problème qu'il y avait, c'est que dès qu'on parlait de toucher la profession infirmière, bon, déjà, tout le monde avait sa vision de ce que devait être la profession infirmière. Et en plus, l'autre problème qu'on avait, tu touches la profession infirmière, tu as d'autres professions qui ne vont pas être contentes. Pourquoi? Parce que, pour certaines personnes, aujourd'hui, ils sont dans une situation, je comprends, ils ont monté, c'est surtout le libéral qui s'est énervé, ils ont monté leur logique de rente, je vais dire le mot, et donc donner des nouvelles compétences aux infirmiers, c'est toucher leur logique de rente. Et là, tu vas me dire, l'accès aux soins des patients, c'en est où? C'en est très très loin. Voilà. C'est vraiment, on touchait à ça. À partir de là, et ça, moi, je tiens à le dénoncer, parce que je trouve qu'on a été un peu seuls, les syndicats et l'ordre sur le sujet, à part, elle était députée à l'époque, il faut être clair, à part Stéphanie Rist, qui est notre ministre aujourd'hui, qui s'est battue, quand même, énormément, pour nous défendre à ce moment-là. Et Yannick Neuder, quand il a été ministre là-dessus aussi. Et je vais citer aussi Frédéric Valletou, parce que sinon, j'en oublierai, il y en a bien d'autres, mais c'est quand même ceux avec qui moi j'ai eu le plus d'échanges là-dessus. On s'est fait, pardonne-moi ce mot, exploser par les lobbies médicaux. Et ça a été, dès qu'on a commencé à avancer pour bouger deux, trois petites lignes, ça a été hors de question, les infirmiers n'ont pas le niveau, et on nous a utilisé le binôme infirmier-médecin. Régulièrement, en disant, mais il y a un binôme, il n'y a pas de souci. Laissez aux médecins le fait de déléguer à la profession ce qu'ils veulent. Non. Alors, moi, je suis pas infirmier, je suis juriste. Alors, tout le monde me disait, oh là là, pourquoi? Alors, oui, j'ai un biais sur les infirmiers. Ma mère était infirmière, des amis qui sont infirmiers, mon témoin de mariage est infirmier, mon épouse est infirmière en pratique avancée. Donc oui, j'ai un biais personnel. Mais la réalité, c'est aussi surtout que je suis un professionnel de l'administration qui a occupé des postes de direction dans l'établissement. Et j'ai vu tout ce qu'auraient pu faire les infirmiers, mais qu'ils ne pouvaient pas faire pour cet accès aux soins. J'ai vu la réalité des déserts médicaux. La réalité des déserts médicaux, c'est que quand on me disait « Ah, mais le médecin peut répondre, il n'y en a pas. » Comment on fait ? Alors effectivement, j'ai souvent travaillé dans des endroits peu attractifs pour les médecins. Donc, il n'y en a pas. Donc, cette loi, elle couvait depuis un moment. Et arrive le révélateur, le Covid. Le Covid arrive, et en fait, le Covid va faire tomber toute notre vision de la structure. À ce moment-là, moi, je suis encore en établissement. Je suis recruté par l'ordre infirmier. Monsieur, je suis recruté quelques jours avant le confinement. Donc, bonne prise de poste. Hein. Et en fait, quand le Covid arrive, l'administration a été obligée d'expérimenter des choses, donc avec une vraie expérimentation juridique, pour faire évoluer la profession infirmière. Mais au départ, c'était que de l'expérimentation. On marchait à tâtons, on disait attention, il ne faut pas trop bouger. Ça a été du débat, est-ce faut-il le faire ou pas les certificats d'essai. Aujourd'hui, c'est plus un débat. À l'époque, c'était un débat, un gros débat. Pour une raison bête et méchante, c'est, oh là là, c'est le médecin qui déclare la vie, naissance, c'est le médecin qui doit déclarer la mort, pas une autre profession. Derrière, quand on avait pendant le Covid des familles qui restaient avec des cadavres dans leurs appartements, parce qu'on a tendance à oublier le Covid là-dessus, qu'il y avait, comme réalité. Maintenant, on est bien content d'avoir les infirmiers qui peuvent acheter. Ça a été la vaccination, ça a été beaucoup de choses. Et je me souviens, pour la vaccination, petite gueulante, de l'envers du décor, on nous dit, ok, plein de gens vont vacciner, et vont pouvoir prescrire la vaccination. Et on a même eu les vétérinaires qui ont pu vacciner. Et là, on voit un avis de la Haute Autorité de Santé qui dit, ok pour les sages-femmes, ok pour les pharmaciens, mais pas ok pour les infirmiers. Pourquoi ? Oui, ils sont pas prêts, c'est pas... Vacciner, ça fait partie du rôle infirmier. Mais c'est pas à eux de prescrire, vous comprenez, c'est compliqué. On fait un CP, communiqué de presse, l'ordre infirmier et France Asso Santé, les patients, représentants des patients, qui dit, il faut le faire, si on veut une vraie couverture. Et d'ailleurs, il faut aller plus loin, il faut que toutes les vaccinations obligatoires puissent être faites, prescrites et faites par les infirmiers. Ce CP sort, la Haute Autorité de Santé persiste, mais heureusement, le ministre de l'époque, Olivier Véran, prend la décision de passer outre l'avis de la HAS. Bon, oui, c'est un avis, on a pris votre avis, les gars, mais en fait, on va s'en passer. Et heureusement, mais c'est pour dire que chaque micro-avancée de la profession infirmière a été et est encore un combat. Et parfois, on n'était pas aidé non plus par certains représentants de la profession infirmière. Je tiens à le dire aussi. Maintenant que eux étaient à des postes de direction, disaient « Oh non, on va pas faire confiance aux infirmiers. » Et tu oublies un petit peu trop vite qu'ils l'avaient été. Bon, on y reviendra. Ensuite, passe le Covid. Stéphanie Rist porte une loi extrêmement importante d'évolution des IP1. Je vais pas faire tout l'envers du décor, mais cette évolution des IP1, elle est importante parce qu'elle donnait l'accès direct, sous condition, et la primo-prescription. La bataille a été terrible. C'est une vraie bataille. C'est-à-dire que Stéphanie Rist, moi, je tiens à la remercier ici, elle a pris des attaques inadmissibles. C'était un vrai courage politique de sa part de porter cette évolution de cette loi. Les syndicats de médecins libéraux, certains, l'ordre des médecins, qui est censé garder une neutralité, ont attaqué régulièrement cette loi en disant que c'était intolérable, inadmissible, pas possible, les IPA, fallait pas évoquer tout ça. D'ailleurs, la loi a été un peu diminuée au Sénat. On a eu la chance, on a eu un soutien, comme quoi il y a des gens qui sont assez pragmatiques. On a eu le soutien de l'Association des maires de France. On va dire comment ça, les maires de France. Ben, les maires de France, c'était sous l'impulsion de David Lisnard, et aussi, j'échange beaucoup avec lui sur nos travaux, Frédéric Chéreau, qui est le co-président de la Commission Santé, c'était lui mon interlocuteur à l'époque avec David Lisnard, ont écrit aux sénateurs, et ont fait une contribution. Et on dit, mais nous, en fait, l'accès direct aux IPA et aux infirmiers, on est pour. Parce qu'en fait, nous, on est dans la réalité. Nous, on représente les maires, et les maires, ils ont besoin absolument d'avoir une évolution pour de l'accès aux soins. Et je me souviendrai toujours de cette table ronde organisée à l'AMF, l'Association des maires de France fait un grand congrès chaque année, très beau congrès, de très haut niveau, qui aborde tous les sujets de la République. Encore une fois, moi je salue le travail des maires, parce que c'est vraiment un métier compliqué d'être élu local maire. Et à l'initiative donc de David Lisnard et de Frédéric Chéreau, l'ordre infirmier a été invité. Il y avait d'ailleurs à l'époque un des représentants de la commission santé qui était Michel Gabas, qui est pharmacien et maire d'une petite ville du Gers, et qui se sont battus pour l'accès direct. L'ordre des médecins s'est levé contre cette évolution. L'Association des maires de France à garder ce courage de dire nous on est pour l'évolution parce que ça sert nos concitoyens. Donc tout ça se passe, la loi sur les IPA passe, diminuée un peu, notamment par exemple un truc aberrant, pas d'accès direct sur les IPA libéraux, les CPTS qui sont mis de côté à l'époque, alors que la CPTS de base, son but c'est aider un patient à trouver un médecin traitant. Mais ah non, il faut pas d'accès direct, toujours pareil parce qu'il ne faut pas toucher le business model de certains. Ça c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait cette, je vais pas redonner de chiffres, mais à peu près, j'avais fait l'analyse dans la commission mixte paritaire, c'est quand l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent ensemble pour parler d'une loi et tenter de trouver un compromis. Je crois que le mot médecin sur la loi IPA était prononcé 50 fois, le mot patient était prononcé moins de 20 fois. Donc pendant trop longtemps, les élus de l'Assemblée et du Sénat priorisaient de ne pas froisser les médecins, les représentants des médecins, parce qu'encore une fois, quand on s'adressait aux jeunes, ils n'étaient pas du tout d'accord avec cette opposition, et par contre, parlaient peu du patient. C'est quand même une loi sur les IPA, dont le titre est l'accès aux soins, et on parle moins d'eux que des médecins. Problème. Bon. Mais cette loi, et je tiens à saluer le travail du syndicat Unipa, parce que eux aussi en ont pris plein les gencives, sans cette loi, sans ce passage, tout le reste n'aurait pas pu arriver. Les IPA sont des pionnières et des pionniers. Je sais qu'il y a encore des réticences sur les IPA. Aujourd'hui, être IPA, c'est un acte, allez, je vais dire comme ça, c'est un acte de foi en la profession infirmière, et c'est un acte sacrificiel. Parce que sans les premières et les premiers IPA, et sans les IPA aujourd'hui qui y vont, les autres professions n'évolueraient pas. Et s'il n'y avait pas eu le courage de ces IPA-là, on n'aurait pas la loi infirmière. Les choses continuent à avancer. Moi, entre-temps, le travail fait que je change de poste. Et, parce que d'abord, il y a une petite anecdote, Frédéric Valletoux fait en sorte qu'il y ait un dépôt de la loi infirmière, et puis il arrive un petit événement, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée, et la loi n'arrivera jamais. À ce moment-là, j'étais désespéré. Cette dissolution de l'Assemblée nationale est une des pires décisions de tous les temps. Voilà, si on doit faire une comparaison footballistique, même Raymond Domenech n'aurait pas osé prendre une décision aussi idiote. Bon, soit dit en passant, on revient là-dessus, c'est reporté, et heureusement, la loi est posée à nouveau, par Frédéric Valletoux et par Nicole Dubré-Chirat. Au Sénat, on a Madame Romani et le sénateur Jean Sol qui y vont et qui vont porter cette loi jusqu'au bout. Et là, changement de paradigme. Les syndicats médicaux sont toujours contre. Il y a des amendements terribles qui veulent enlever, qui veulent même pas que le mot consultation soit mis. Ce sont des vraies joutes verbales à l'Assemblée, mais il y avait le courage aussi du ministre de l'époque, qui est Yannick Nader. On arrive à un consensus, ça sort de l'Assemblée nationale, voté à l'unanimité, et c'est très ambitieux. C'est-à-dire qu'il y a la consultation infirmière, qui comprend le diagnostic et la prescription. Il y a rajouté, et ça merci au travail du Collège d'infirmiers français et des infirmières en colère, et rajouté l'orientation et la coordination du patient, et reconnu, et rajouté la pénibilité, ça sera au Sénat, mais et rajouter la prise en compte financière, et rajouter, et ça c'est peut-être la chose la plus folle, sous une impulsion notamment de l'Association des maires de France, et rajouter l'accès direct aux infirmières. Alors là c'est le séisme. C'est le séisme, c'est très dur, c'est compliqué, tout le monde s'inquiète. Ça veut dire que depuis 20 ans, la loi sur le médecin traitant porte d'entrée, moi j'ai envie de dire, goulot d'étranglement, se voit arriver une exception très forte, c'est-à-dire que le patient pourra aller voir l'infirmier directement dans le cadre de ses missions. Alors là, c'est dramatique. Tout le monde dit c'est la fin de notre système de santé. Les infirmiers vont dépenser n'importe comment, c'est sûr. C'est sûr que les infirmiers ils vont prescrire dans tous les sens. C'est leur première envie du matin quand ils se lèvent. Et c'est intéressant parce qu'en fait de base c'est une de mes passions. Je suis un peu bizarre, tu t'en rends compte. Moi j'aime bien aller voir les anciens débats sur des lois santé ou les écrits. J'adore ça. C'est mon Netflix. Et dans la loi sur le médecin traitant porte d'entrée, de base c'était juste pour réguler vers le spécialiste. Puis petit à petit, on a mis plein d'autres choses, dont les paramédicaux. C'est pas le but, pas le but du tout. Donc, cette loi, elle part votée à l'unanimité. C'est-à-dire, on est à un moment où l'Assemblée va censurer le gouvernement, donc c'est-à-dire un moment où l'Assemblée nationale est totalement fragmentée. Mais sur ce point-là, ils estiment que la revalorisation infirmière est supérieure à tous les enjeux politiques. Et ils la votent à l'unanimité. C'est extrêmement puissant, très puissant. Donc le texte rentre, et il ressort plus ambitieux. Ça passe au Sénat. Et au Sénat, on se dit, bon, Sénat un peu conservateur, il y a toujours un petit peu écouté les médecins libéraux, et encore une fois, je précise, pas tous les médecins libéraux, les syndicats de médecins libéraux. Et là, surprise absolue, le Sénat rend la loi encore plus ambitieuse. Personne s'y attendait. Clairement, personne s'y attendait, mais tant mieux. Mais en fait, c'est logique. Les sénateurs et sénatrices, ce sont les représentants des territoires. Et ils ont entendu le cri des territoires. Le cri des territoires, c'est quoi? Les gens n'arrivent pas à se soigner. Et faut-il avoir fait 10 ans d'études pour prescrire un Doliprane? Faut-il avoir fait 10 ans d'études pour arranger un pansement? Et l'autre point le plus important, c'est qu'au final, la profession infirmière, dans ce qu'elle fait, à son niveau de compétence, elle le fera mieux que les autres professions. Et c'est peut-être ça, moi, que je retire de cette loi. C'est de dire, c'est pas un sous-métier, pas du tout. C'est un métier d'excellence dans ses compétences et dans sa spécificité. Et là, je vais sortir un petit sondage qu'on avait fait à l'époque de l'ordre infirmier, une petite enquête. Près de 70 000 infirmières et infirmiers. Et on avait posé la question, est-ce que c'était votre premier choix de faire infirmier? Ou est-ce que vous avez fait ça par défaut? Plus de 90%, c'était leur premier choix. Donc non, on fait pas infirmier par défaut. On fait infirmier parce qu'on veut faire infirmier. Et cette loi, elle le reconnaît. C'est une technicité spécifique. Ensuite, grâce à l'intervention du SNICS, qui est le syndicat des infirmières, des infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, est reconnu le fait que ces infirmières-là sont des infirmières de spécialité qu'il va falloir refonder. Arrive un autre texte important, qui est toujours encore débattu, qui reconnaît aux infirmières puéricultrices, aux IBOD et aux IAD, le fait qu'il c'est une pratique avancée. Alors là, il y a beaucoup de débats sur les internets, on va pas revenir dessus, mais c'est une pratique avancée qui est différente, qui est dérogatoire, et qui, notamment, sur cette pratique avancée-là, il y a un avis juridique qui a été donné par le professeur Joël Morébaï. Joël, d'ailleurs, c'est un syndicat UNIPA qui l'a publié. Pour faire une petite comparaison, on a parlé de foot, on va parler de rugby pour que tout le monde soit content. Le professeur Joël Morébaï, c'est l'équivalent d'Antoine Dupont dans le droit. Voilà. C'est un génie, c'est quelqu'un qui est d'un niveau où tout juriste doit se dire « je le regarde avec respect » et quand il dit quelque chose, c'est la vérité. Voilà. Donc, il a sorti cette analyse-là, à laquelle je souscris totalement, qui dit « les spécialités, au regard de la façon dont est écrit l'amendement, n'ont pas l'accès direct et n'ont pas l'aspect populationnel et la primo-prescription. » Alors, c'est ça qui, aujourd'hui, est en débat, de ce que les gens veulent ou pas. Moi, j'ai tendance à me ranger du côté du professeur Morébaï, qui a signé son avis, donc il l'assume, et qui est une référence en la matière. Ça ne veut pas dire que c'est une sous-spécialité, ça ne veut pas dire que c'est un sous-métier, ça veut dire que c'est une façon différente de le pratiquer. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, il faut que les travaux avancent, et effectivement, ils sont en attente de la réingénierie de leur métier. C'est important, je pense inévitablement aux puéricultrices qui ont beaucoup de choses encore à négocier et qu'il faudrait que ça sorte, mais je pense aussi aux IAD et aux IBOD. Il faut que ça avance. Mais c'est une autre façon, il faut l'accepter. En tout cas, dans la rédaction actuelle. L'autre point qui est arrivé, très important pour les IPA, les mentions historiques, j'ai envie de dire, c'est le fait que ces mentions-là aient potentiellement, c'est une possibilité, un aspect populationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont pouvoir avoir une vision, notamment sur la, je vais prendre un cas concret, sur la reconduite de certains traitements. Et attention, ce que je dis n'est pas encore appliqué parce que les textes d'application ne sont pas sortis. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la potentialité juridique. Ils auront la possibilité de, par exemple, represcrire des médicaments non pas par rapport à leur mention, mais par rapport à une vision populationnelle. Le cas classique, en EHPAD, IPA-PCS, pardonne-moi, je ne donne pas tout le nom, c'est un peu long, l'IPA-PCS, qui va recevoir un patient qui a de l'hypertension stabilisée et qui est bipolaire, aujourd'hui ne peut pas reconduire la partie bipolaire. Avec le populationnel, si les textes réglementaires sortent, pourra reconduire. Voilà. Et quand les textes sortiront. Donc voilà aujourd'hui où on en est. Donc effectivement, la loi est votée à l'unanimité au Sénat. Et encore une fois, il faut remercier Yannick Neuder aussi parce que il s'est battu contre des choses qui étaient dramatiques. Il y a quand même eu des propositions d'amendements qui ont été portées pour rendre légale la prescription à l'oral des médecins. Ce qui fait que vous n'auriez eu plus aucune preuve pour ça. Il y a eu des gens qui ont aussi porté des amendements pour que les infirmiers n'aient pas l'exception à l'exercice illégal de la médecine. C'est-à-dire que toute prescription de médicaments que pourront faire les infirmiers et qui seraient des médicaments médicaux, mais encore une fois, il faut que les infirmiers ne vont pas prescrire tous les médicaments. C'est d'ailleurs listé dans l'arrêté qui est sorti. Mais ça donne une dérogation, une protection juridique. Il y a eu des amendements pour le supprimer. Des amendements qui ont été portés par des structures infirmières. Comme quoi, parfois, on pensait que les principales attaques seraient des structures médicales, ce sont des structures infirmières qui l'ont porté. Et heureusement, Yannick Neuder a été présent pour stopper ça, de façon très pragmatique, hein, sur la prescription. Il s'est dit, on se bat pour la traçabilité, on va pas l'enlever. Tout ça avance, le populationnel est voté. Moi, je remercie beaucoup la sénatrice Micoulot, sénatrice toulousaine, qui a porté cet amendement. Je fais un peu de pub, je suis toulousain, Voilà, il faut le dire, c'est une des plus belles villes au monde. Donc je le redis, je remercie aussi Anne-Sophie Romagny et Jean Sol qui ont travaillé, et sénateur Jean Sol, qui est issu de la profession infirmière et qui a été très pragmatique et qui a été très pédagogue et qui a permis à ce point-là d'avancer. Et on termine en fait avec une loi qui ne devait juste se poser sur la consultation infirmière et la prescription, qui met l'accès direct, qui rebascule toutes les cartes sur les spécialités et qui refonde totalement la profession. Là, effectivement, les textes commencent à sortir. On a les textes sur les infirmiers qui sont sortis. Maintenant, le grand enjeu, c'est d'amener le changement, c'est-à-dire que les établissements arrivent à faire des choses là-dessus, notamment l'accès direct. Il y a un bémol que j'ai signalé lors d'une tribune que j'ai signée avec un infirmier qui est juriste qui s'appelle Vincent Lothard, c'est que la convention qui a été signée en libéral porte une très grave atteinte à la loi. C'est-à-dire qu'au lieu de donner l'accès direct à une consultation qu'on appelle holistique, c'est-à-dire une consultation qui permet de déployer la totalité de tes compétences et d'adapter le traitement par rapport à tes compétences dans le cadre, encore une fois, de tes compétences juridiques, en libéral, ça a été complètement détruit. Et c'est juste quelques petites consultations ciblées. Et l'accès direct n'est possible que sur les plaies et cicatrisations. Alors, je ne vais pas jeter la pierre totalement au syndicat. Quand on te propose un avenant qui te revalorise un petit peu et qu'on te dit « t'as pas le choix », mais je leur jette un peu la pierre quand même. Sur ce sujet-là, je ne suis pas syndicaliste, je ne représente pas un syndicat. Personnellement, je ne l'aurais pas signé. Et je suis plus en adéquation avec la position des infirmières libérales en colère qui, elles, ont dénoncé cette signature. Clairement, aujourd'hui, moi, je trouve regrettable que des professions infirmières, que des représentants de la profession infirmière aient signé quelque chose qui va à l'encontre d'une loi votée à l'unanimité. Voilà, je le redis, c'est une loi qui... Les représentants du peuple ont voté une loi, la CNAM et des représentants infirmiers ont décidé de l'abolir en libéral. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est même contre-productif pour eux. Parce que qui a l'accès direct en ville? Même la consultation holistique en ville. Eux, ils ont pas la consultation holistique. Mais par exemple, c'est marqué dans la convention, dans l'avenant 11, les infirmiers de l'expérimentation équilibre. Ils ont, et bravo à eux, et bravo à l'association Soignants Humains d'avoir porté ça, ils ont la consultation holistique. Si demain, quelqu'un ouvre un centre de santé salarié des infirmiers, légalement parlant, ces infirmiers auront l'accès direct et la consultation holistique. Donc au final, ces professions-là ont mis un petit coup d'arrêt à l'ensemble des libéraux en leur disant, ben vous par contre vous êtes libéraux, vous n'avez pas le droit. Presque, il y a des fois, c'est pas leur but, c'est presque une incitation à devenir salarié. Parce qu'en fait aujourd'hui, un infirmier salarié a plus de droits qu'un infirmier libéral. C'est pas acceptable. Voilà, en disant ça, il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver, mais encore une fois, ça n'engage que moi, ça ne t'engage pas à toi, ça n'engage personne d'autre, ça n'engage que mon humble personne, de juriste, et de personnes, on va le dire, qui lui-même ne soigne pas directement, donc peut se permettre ce genre de choses. Mais avant tout, je suis aussi potentiellement patient, et en tant que patient, je suis patient, et donc je me dis, c'est dommage, j'ai des personnages dans ma famille, je me dis, c'est dommage, et troisièmement, je suis quelqu'un qui est très attaché aux grands principes de la République. Et quand une loi est votée à l'unanimité, je ne peux pas entendre que des gens qui ont un pouvoir en dessous, en termes de hiérarchie des normes, limitent cette loi. Je ne trouve pas ça acceptable dans une démocratie qui fonctionne bien. Voilà, c'était un long interlude sur la loi. Si tu as d'autres questions.
Quand du coup les compétences infirmières vont évoluer de manière concrète au niveau juridique, qu'est-ce que ça va changer pour l'infirmier?
Alors, par exemple, déjà dès aujourd'hui, l'infirmier peut recevoir un patient s'il est salarié directement et déployer sa consultation, c'est-à-dire l'analyser complètement et faire une consultation au niveau infirmier et derrière pouvoir prescrire certaines choses. Réadapter certains traitements. Et c'est là où, en fait, on est à une hiérarchisation, je dirais, des compétences, en fait. C'est-à-dire que, parce qu'il y a beaucoup d'IPA, pareil, qui ont dit « Ah là là, mais si l'infirmier fait ça, moi, qu'est-ce qui me reste ?» Mais l'IPA a encore plus de choses. Donc, en fait, on est sur vraiment une gradation des soins qui fait que on va pouvoir déclencher et gagner en autonomie. Moi, j'espère que demain, les établissements pourront faire des centres de consultation non programmés, notamment infirmières. Et peut-être, un jour, comme au Québec, avoir même des structures de soins avec des infirmiers. C'est totalement entendable. Évidemment, on va pas avoir un infirmier qui va faire une opération à cœur ouvert. C'est pas le but. Non, il va intervenir dans le cadre, dans ce cadre-là. On avait signé à l'époque une tribune pour l'Institut Sapiens avec Guy Valencien, qui est médecin. Et en fait, lui, c'est quelqu'un qui a toujours défendu l'évolution infirmière parce qu'il estime que les médecins doivent aller voir l'excellence dans leur domaine et pas essayer de faire en sorte que les autres ne montent pas. Et si quelqu'un monte, ben, ça fait monter le médecin. Et en fait, c'est ça. Moi, ce que j'attends aussi de ses représentants, et je remercie Guy Valencien d'avoir dit ça, c'est qu'en fait, en faisant grandir les autres, on se grandit soi-même. C'est ça le but de cette loi. Et c'est ce que a fait Stéphanie Rist. Parce que, si tu remarques, deux des personnes qui ont le plus défendu cette loi infirmière, Stéphanie Rist et Yannick Meller, c'est des médecins. Mm-hmm. Mais ils ont incarné ce principe-là de faire grandir les autres, c'est de faire grandir soi-même.
Et du coup, en termes de formation, Qu'est-ce que ça va impliquer pour les instituts, cette loi?
Alors, ça veut dire que alors, déjà, il n'y a pas de formation continue obligatoire là-dessus. J'étais un peu surpris. C'est vrai que moi, je m'attendais à ce qu'il faille reformer tout le monde. Moi, je pense qu'il faut quand même que les établissements forment tout le monde et il faut aller chercher des formations là-dessus. Et les instituts, en fait, ils doivent revoir toute leur maquette de formation. Laisser une grande place à la consultation et à la prescription et à la prise en charge des personnes. C'est vraiment des choses qui doivent être vraiment changées rapidement et faites rapidement. Donc ça, les instituts, je sais qu'ils y travaillent d'arrache-pied et toutes les maquettes, c'est encore une nouvelle réforme de la formation des infirmières. Et derrière, il faudra aussi réformer toutes les autres formations infirmières, que ce soit de spécialité ou IPA.
Et donc, à travers ces évolutions législatives, quel infirmier ou infirmière on cherche du coup à faire émerger dans tout ça?
Alors, en fait, c'est une infirmière ou un infirmier plus autonome. Ça veut dire aussi que les managers, les directions d'établissement, vont devoir avoir des équipes plus autonomes. Encore une fois, l'autonomie ne veut pas dire aucun contrôle, ne veut pas dire rendre des comptes. Notamment sur les dépenses des deniers de la solidarité. Parce que, qu'on soit libéral ou qu'on soit en établissement, on vit sur les deniers de la solidarité. Donc on rend des comptes sur les deniers de la solidarité et c'est bien normal. L'autre point qui va être important, c'est qu'on va chercher un infirmier qui assume de vouloir faire infirmière ou infirmier. C'est-à-dire qui a connaissance de pourquoi c'est son métier, pourquoi il ou elle a choisi cette profession. Ensuite, c'est un infirmier qui peut être multiple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la carrière, elle peut aller dans plein de sens. Ça peut être de la spécialité, ça peut être des mentions IPA, ça peut être de l'encadrement, ça peut être de la direction administrative. Donc, c'est extrêmement divers et varié. C'est aussi une profession qui doit revendiquer sa place. C'est une place en lien avec les autres professionnels pour l'intérêt du patient, pas pour l'intérêt des autres professions, pour l'intérêt du patient, qui est le cœur, je dirais, de notre système de santé, mais qui doit effectivement revendiquer cette place-là et qui doit assumer. C'est aussi une profession qui doit former. C'est-à-dire qu'il faut que, de plus en plus, dans les instituts, les formateurs soient infirmiers. On peut aller chercher toute autre compétence à côté complémentaire. Moi, par exemple, je donne des cours dans des instituts parce que je donne des cours sur le droit. C'est pas un sujet. Mais par contre, il faut vraiment que ça soit une profession qui s'auto-forme et qui se fasse évoluer. Il faut que ça soit une profession qui fasse plus de recherches, publie. C'est noble de faire de la recherche. Et la recherche n'est pas que de la science infirmière. La science infirmière est une des matières que peuvent faire les infirmiers. Mais ils peuvent faire de la recherche sur tout, sur plein de choses. En management, en science, le champ des possibles est énorme. Il faut pas, je ne crache pas du tout sur la science infirmière, elle est importante. Mais il n'y a pas que ça. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, ah ben l'infirmier fait la science infirmière. C'est aussi idiot que moi qui viens d'administration, si on me disait, tu dois ne faire de la recherche qu'en science administrative. J'adore la science administrative. C'est la compréhension de l'administration. Comme me disait mon professeur de l'époque, je ne sais pas si j'arriverai à comprendre l'administration, donc je ne sais pas si ma matière existe vraiment. Mais je vais tenter de vous l'enseigner. J'ai pas la réponse. Moi non plus, je ne sais pas si j'arriverai à comprendre l'administration en tant que science, mais c'est une science. Donc, il n'y a pas de problème à avoir une science infirmière. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est aussi comprendre que les infirmiers sont multiples et variés. C'est aussi faire vivre cette réforme. C'est ça qui va être important. Faire vivre, la faire prospérer. C'est un infirmier et une infirmière qui ne doit jamais perdre son cœur, son humanisme, mais qui doit être aussi connecté. L'IA va changer les choses. Moi, l'IA a changé mon travail. Elle a complètement changé mon travail. Donc, l'IA va changer totalement le métier infirmier pour le mieux, si c'est une IA qui est au service de l'infirmier et pas l'inverse. Ça, c'est un outil. Ça va être un outil accélérant, ça va être un outil de comparaison, et ça ne va pas remplacer l'infirmier. Mais, par contre, moi je vois en droit, souvent me dire, là là, il y a des gens qui utilisent l'IA, c'est pas bien. Alors, évidemment, l'IA peut faire plein d'erreurs, et il faut toujours corriger, c'est pas encore méga fiable. Mais c'est aussi idiot que, alors ça va marquer mon âge, mais que quand moi j'ai commencé à faire mes études de droit, où on me disait, faut pas aller sur Internet, faut pas aller sur Légifrance, c'est pas bien, c'est tricher. Voilà. Aujourd'hui, un juriste qui va pas sur Légifrance, ça existe pas. On a tous un code rouge ou bleu pour faire montrer qu'on est juriste. Ça rassure les gens. Quand ils rentrent dans le bureau, ils voient le code rouge, ils disent, OK, c'est un vrai juriste. En fait, on va sur Légifrance. Au moins, c'est à jour. Donc, voilà. L'infirmier de demain, c'est ça. Qui assume complètement sa place dans le système de santé, qui n'est pas assujetti à une autre profession, qui est libre, qui sait travailler avec les autres, mais qui est autonome. L'autonomie, elle doit être revendiquée. C'est pas un gros mot pour les infirmiers. L'infirmier ne doit plus être sacrificiel. Il doit faire son travail, être rémunéré pour, être mieux rémunéré. Les salaires des infirmiers, les salaires des IPA, ce sont des scandales. Ce sont des hontes d'État. Moi, je le dis clairement, c'est un métier difficile, on ne le paye pas assez. Alors, on va me dire, là, mais où on va trouver l'argent? On en trouve de l'argent. On peut faire des économies sur plein d'autres choses. Et sur les salaires des infirmiers, c'est une honte. Et ça, c'est quelque chose qui doit être corrigé rapidement, C'est, je pense, pour moi, un des principaux enjeux des futures présidentielles. On parle malheureusement pas assez santé, mais revaloriser les personnes, c'est une des priorités. Voilà un petit peu ma vision de l'infirmier de demain.
Et du coup, pour finir cette interview, si les personnes qui nous écoutaient, elles devaient retenir une idée de notre échange, qu'est-ce que ce serait? Sachant que j'ai déjà une idée de ce que tu nous diras, puisque tu l'as bien insisté.
Alors, je vais évacuer l'écrit est votre meilleur ami, mais je le redis, là, il faut le garder, mais ça, c'est plus le côté juridique. Personne ne se battra pour vous aussi bien que vous. Voilà, c'est le point principal. C'est vous êtes maître de votre destin, les infirmières, les infirmiers. Il faut le revendiquer. C'est-à-dire qu'il faut que les infirmiers soient mobilisés dans les syndicats infirmiers, mais aussi les syndicats généralistes. Il faut que les infirmiers, et quand je dis syndicats, c'est à tout niveau, syndicats de salariés, syndicats patronaux, l'ordre, voilà, les infirmiers. Et ensuite, il faut que les infirmiers aient des rôles politiques dans les mairies, députés, sénateurs, et surtout que demain, des infirmières et des infirmiers, s'ils sont élus, souvent, on a tendance à ne pas les mettre dans la commission des affaires sociales, c'est-à-dire la commission où on traite les sujets santé. Non, ils doivent aussi être là-dedans. Pas que, parce qu'ils peuvent donner leur avis surtout, mais c'est ça l'enjeu. La profession infirmière l'aura gagnée quand elle sera mieux représentée dans les instances nationales. Peut-être qu'un jour, et je le souhaite, on aura un ou une ministre de la santé infirmière. Ça sera quelque chose. Et peut-être même qu'on aura un jour, et c'est peut-être le mieux, un infirmier ou une infirmière qui sera ministre d'autre chose, mais de montrer que la profession sera allée loin. C'est ça que moi j'aimerais que les gens retiennent. Le combat n'est pas du tout fini pour la reconnaissance infirmière. Et comme tous les acquis, dès que la profession infirmière baisse la garde, on recule. Donc c'est un combat perpétuel. Il faut l'accepter, il faut le mener. Voilà ce que j'aimerais que les gens retiennent de cet échange.
Eh bien, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée !